17h à Paris, 18h à Johannesburg, l'heure de votre journal en français facile.
Le journal en français facile.
Adrien Delgrange.
Bonjour à toutes et à tous, où que vous soyez sur la planète. Nous sommes le vendredi 2 décembre. Au sommaire de cette édition, tout d'abord, le mondial de foot. En ce moment, 2 matchs au Qatar, c'est la mi-temps. L'Uruguay mène 2-0 contre le Ghana. Match nul, un partout entre la Corée du Sud et le Portugal. Les autres titres, en Afrique du Sud, tout a commencé par un cambriolage, un vol dans l'une de ses maisons. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa pourrait être destitué. Il pourrait peut-être ne plus être le président de l'Afrique du Sud. Détails et explications à suivre avec Sébastien Némette. Et puis dans ce journal, dernier jour de la visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis. Le président français est à la Nouvelle-Orléans pour parler de francophonie, nous dira notre envoyé spécial. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. C'est une situation périlleuse pour Cyril Ramaphosa. Le président sud-africain est en danger. Il est affaibli par une affaire d'argent caché. Une importante somme d'argent a été retrouvée dans l'une de ses maisons. L'affaire vire au scandale politique. Des élus se demandent même s'il ne faut pas destituer Cyril Ramaphosa. Faut-il lui retirer sa fonction de chef de l'État ? Aujourd'hui, vendredi 2 décembre, le sujet devait être examiné, étudié lors d'une réunion d'urgence de son parti politique, l'ANC. Sébastien Némette, bonjour.
Bonjour.
La réunion a finalement été repoussée à plus tard.
Oui, officiellement, les membres de l'ANC souhaitent d'abord lire le rapport d'enquête avant de prendre une décision. La réunion à laquelle Cyril Ramaphosa ne participait pas a donc été reportée à dimanche. On attend aussi mardi un débat au Parlement sur ces questions et les élus pourraient ensuite décider de lancer une procédure de destitution, c'est-à-dire priver Cyril Ramaphosa de sa fonction de président.
Alors, petit rappel, Sébastien Némette, cette affaire a commencé par le cambriolage de sa propriété, de Falafala, en février 2020. Des voleurs auraient découvert près de 4 millions de dollars en liquide, dissimulé, caché dans des coussins.
Et oui, c'est l'ancien chef des renseignements qui a révélé l'affaire. Il a porté plainte. Arthur Fraser accuse le président Ramaphosa d'avoir kidnappé les cambrioleurs, de les avoir payés pour qu'ils se taisent, d'avoir caché l'affaire à la police et aux impôts. Alors, une commission d'enquête a été créée et mercredi, eh bien, elle a conclu à de possibles fautes du chef de l'État. Alors, la présidence, elle nie toute infraction. Selon elle, Cyril Ramaphosa n'était pas au courant du cambriolage. L'argent proviendrait en fait d'une vente d'animaux. Un homme d'affaires soudanais serait venu pour acheter des buffles. Il aurait payé 580 000 dollars en liquide. Et par prudence, eh bien, l'employé chargé de la vente n'aurait pas mis l'argent dans le coffre-fort, car d'autres personnes y ont accès. Il aurait caché les billets dans les coussins du canapé d'une chambre d'amis.
Sébastien Némette dans le journal En français facile. La guerre en Ukraine, rien ou peu de choses ne bougent sur le terrain diplomatique. Sur les négociations pour arrêter le conflit, hier soir, le président américain Joe Biden s'est dit prêt à parler, à discuter avec Vladimir Poutine, à condition que le président russe cherche un moyen de mettre fin à la guerre, précise Joe Biden. Dans la journée, Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe, a répondu.
Qu'a réellement dit le président Biden ? Il a déclaré que des négociations ne seront possibles qu'après le départ de Poutine de l'Ukraine. Nous le rejetons. L'opération spéciale continue. Mais en même temps, il est important de souligner que le président Poutine était et reste ouvert aux contacts et aux négociations. Bien sûr, la meilleure façon de protéger nos intérêts est de le faire par des moyens diplomatiques pacifiques. Mais les États-Unis ne reconnaissent toujours pas les nouveaux territoires au sein de la Fédération de Russie. Et cela complique la recherche de bases de discussion mutuelle.
Dimitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe, au micro d'Anissa El-Jabri, RFI Paris, 17h05. La suite et la fin de la visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis. Après 2 jours à Washington, le président français est en Louisiane, dans le sud du pays. Emmanuel Macron se rend précisément dans la ville de la Nouvelle-Orléans. C'est la dernière étape américaine pour le chef de l'État avant de rentrer après à Paris. Et il sera question de francophonie. Et le choix de la Nouvelle-Orléans pour parler de la langue française n'est pas un hasard. Envoyé spécial aux États-Unis, Valérie Gasse.
Il est de tradition d'aller dans une autre ville que la capitale d'un pays quand on fait une visite d'État. Emmanuel Macron n'y déroge pas et se rend donc à la Nouvelle-Orléans, cette ville marquée par son passé commun avec la France, dont elle fut une possession jusqu'au début du 19e siècle. Parfait pour illustrer le lien particulier avec les États-Unis que le président n'a eu de cesse de vanter à Washington. Un rendez-vous avec l'histoire commune des deux pays, mais aussi avec l'avenir. Emmanuel Macron va prononcer un grand discours sur la francophonie au musée de la ville et annoncera une initiative pour soutenir l'apprentissage du français. Un fonds intitulé French for All, le français pour tous. Objectif, relancer l'usage du français au-delà des élites. Emmanuel Macron rencontrera le gouverneur de l'État, John Bel Edwards, et évoquera la question du climat dans cette ville frappée par les ravages de l'ouragan Katrina en 2005. Et le chef de l'État n'exclut pas de se promener dans la ville avant de repartir. Une carte postale du président de la République qui se met dans les pas de ses prédécesseurs, Valéry Giscard d'Estaing, mais surtout le général de Gaulle, qui s'étaient eux aussi rendus dans cette ville lors de leur visite d'État, un autre symbole. Valéry Gasse, La Nouvelle-Orléans, RFI.
Le journal en français facile.
Dans l'actualité également, le rappeur américain Kanye West, sanctionné, il est puni. Son compte Twitter est suspendu, il n'est donc plus accessible aux internautes à l'heure actuelle. Décision du nouveau propriétaire du réseau social Twitter. Pour Elon Musk, Kanye West incite à la violence. Alors pour mieux comprendre ce qui s'est passé, Edmond Sadaka nous a rejoint. Bonjour Edmond.
Bonjour Adrien.
La sanction est tombée concernant Kanye West.
Oui Adrien, il faut savoir tout d'abord que le compte Twitter de la star du rap avait déjà été suspendu, c'est-à-dire arrêté de façon provisoire en octobre dernier après la publication de messages antisémites, donc hostiles aux juifs, mais il avait été rétabli ce compte 2 semaines plus tard. Cela n'a pas empêché aujourd'hui le rappeur de recommencer. Il vient de dire une nouvelle fois des choses très grave alors qu'il était l'invité hier d'une émission de télévision, une émission présentée par le complotiste Alex Jones. Le rappeur a multiplié lors de cette émission les déclarations sur son amour pour les nazis. Il a par exemple estimé, je le cite, que Hitler avait fait de bonnes choses lorsqu'il était au pouvoir. Kanye West a aussi, un peu plus tard, publié sur son compte Twitter une image qui représente une croix gammée, l'emblème du parti nazi, une croix entrelacée avec une étoile de David qui est le symbole de la religion juive.
C'en est trop donc pour Elon Musk. Le propriétaire de Twitter a donc décidé de réagir.
En effet, désolé, tu es allé trop loin, a écrit à Kanye West, le nouveau patron de Twitter, qui s'était engagé, souvenez-vous, il y a peu de temps, à rétablir une totale liberté d'expression sur son réseau social. Et puis, Adrien, autre conséquence de tous ces dérapages du rappeur, Kanye West a été abandonné, lâché ces dernières semaines par les différentes marques avec lesquelles il collaborait. Et ces dernières sorties, ces dernières déclarations ne devraient certainement pas arranger ses relations avec le monde des affaires.
Merci Edmond Sadaka pour toutes ces explications. Ainsi se referme le journal en français facile, un journal pour apprendre le français et s'informer avec l'actualité internationale. Le JFF sur RFI du lundi au vendredi, 16h temps universel, et quand vous voulez sur notre site internet rfi.fr. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi derrière ce micro pour un nouveau journal.